je me disais pourquoi moi, dans mon petit coin du Perche, pourquoi ça me tombe dessus. Peut-être des a priori, se dire il faut être quelqu'un de... Et non, 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 c'est au contraire, rester, faire ce travail, mais rester vraiment dans l'humilité et ouais, dans une certaine simplicité. Et...
Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dag et je vous souhaite la bienvenue. Elle se présente comme énergéticienne ou guérisseuse, mais vous pouvez aussi dire d'elle qu'elle est canal, magnétiseuse et bien sûr hypnothérapeute. Par un de ces hasards qui en fait n'en sont pas, Noëlle Pressard s'est découvert une disposition pour ce qu'elle appelle les énergies subtiles. Aujourd'hui, dans son cabinet entouré de nature, à Vaupilon, elle aide ses clients soumis à des addictions, des angoisses ou du stress à aller mieux. Dans cet épisode, Noëlle explique comme une évidence comment elle a fait de son don une occasion de faire du bien autour d'elle. Bonne écoute. Bonjour Noëlle.
Bonjour Amélie.
Merci de me recevoir dans ta cabane, c'est comme ça que tu l'appelles ?
Je l'appelle mon chalet.
Ton chalet.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
C'est un endroit chaleureux, premièrement. C'est un endroit que j'ai voulu, parce qu'il se marie avec la nature. Et comme tu peux le voir, je suis entourée de nature. Donc je ne pouvais pas mettre ici autre chose qu'un chalet composé de bois. 4 ans après, on sent encore l'odeur du bois. Donc c'est un chalet chaleureux. Pour recevoir les gens qui en ont besoin.
Qu'est-ce que tu y fais ici ?
Alors, je pratique l'hypnose ericksonienne et je pratique ce que j'appelle les énergies subtiles. Parce que je ne sais pas d'où elles viennent.
On va s'attacher à chacun de ces deux pans qui sont, je crois, complémentaires ou très différents de ce que j'ai compris. Tu peux pratiquer l'un ou l'autre, ou les deux, au cours d'une séance, en fonction de ce que tu ressens.
De ce que je ressens, de la problématique, de l'approche de la personne, qui peut très bien être ouverte à l'hypnose et ne pas l'être sur les énergies, ou inversement. Donc je peux marier les deux, je peux combiner les deux. Et combiner les deux, c'est même bien pour avoir un meilleur résultat, je veux dire.
Alors, avant que tu m'expliques ce que sont l'une et l'autre de ces pratiques, pour quelles raisons vient-on te voir ?
Beaucoup pour les addictions. Alors, le tabac en tête, hein, avec tout ce qui représente la santé, le sceptre du cancer, l'argent. Beaucoup d'addictions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, qui sont plus ou moins, comment dire, expliqués. Il y a des gens qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont stressés. J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie, je ne sais pas pourquoi je suis stressée. Et puis après, il y a des personnes qui viennent pour une raison précise. Et puis quand on creuse un petit peu, quand on enlève un petit peu les couches, on se rend compte que la vraie cause, elle est beaucoup plus profonde. Donc on part d'un arrêt du tabac et on arrive sur une histoire de deuil qui ne s'est pas bien, qui s'est pas bien faite. Donc ça peut être pour plein de choses, les traumas, les phobies, plein de choses. Les douleurs, les douleurs physiques, tout autant que les douleurs psychologiques. Les douleurs physiques, je peux les soigner, mais seulement si elles sont validées. C'est-à-dire que si la personne vient me voir et me dit « j'ai mal au bras », moi je vais m'attacher à lui demander est-ce que vous savez d'où ça vient, est-ce que vous savez, non je sais simplement que j'ai mal au bras, je vais pas y toucher parce que la douleur elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose derrière. Si j'enlève la douleur, la personne effectivement elle n'aura plus mal, Mais il y aura peut-être quelque chose derrière qui se sera installé et ce sera plus compliqué. Donc c'est vraiment des douleurs validées. Moi, ce que j'appelle des douleurs validées, c'est-à-dire ben, j'ai de la polyarthrite, ben, j'ai une tendinite, j'ai une grande cicatrice et j'ai gardé une douleur dessus. Voilà, là, je peux travailler dessus.
D'accord. Comment ça se passe? Tu as d'abord un contact probablement téléphonique avec la personne?
Oui, oui. Même si certaines personnes ont du mal à communiquer. Le principal, c'est quand même d'avoir un contact téléphonique. Il y a déjà des renseignements qui passent par la voix. Des choses que les gens arrivent à dire, qui ne vont pas arriver à dire en face et qui vont avoir plus de facilité. Il y en a qui disent tout hein, déjà par téléphone. Et qui, hop là, ils ont déjà tout déballé. Et puis, on prend rendez-vous. Et puis après, on refait donc ce qu'on appelle une anamnèse. C'est-à-dire qu'on écoute la personne pendant 20 à 30 minutes. Ça dure plus ou moins longtemps, selon les gens. Et après, on fait la séance d'hypnose, en elle-même.
Tu peux m'expliquer comment ça se passe, une séance d'hypnose avec toi?
Oui. Alors déjà, l'hypnose, c'est le fait de mettre une personne en état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on abaisse la respiration le plus possible entre état d'éveil et état de sommeil, pour laisser le conscient se mettre au repos et pouvoir mettre l'inconscient, moi j'aime bien dire, le mettre sur le devant de la scène. La personne est invitée à agir selon les protocoles. Il y a des protocoles où elle n'a pas besoin. Elle agit, elle parle, elle explique, elle montre, elle s'exprime, elle montre ses émotions, elle peut rire, pleurer, tout ce qu'elle veut. Et elle se souviendra absolument de tout à la fin de la séance, ce qui est confortable. Très confortable, je trouve.
Ça dure combien de temps, une séance d'hypnose en elle-même?
Entre 20 et 30 minutes. C'est pareil, c'est du cas par cas. Il y a des personnes avec qui ça va aller très vite. Ça dépend du protocole. Il y a des protocoles, c'est plutôt technique. Et puis, il y a d'autres protocoles où les personnes sont dans un tel état d'émotion qu'ils ont besoin de reprendre leur souffle. Donc, on fait vraiment durer les choses. On essaye d'y aller vraiment avec douceur, lenteur. Donc, ça peut prendre une demi-heure. Mais en général, pas plus d'une demi-heure.
Et pour arrêter de fumer, par exemple, on a besoin de plusieurs séances ou ça peut se faire en une fois?
Ça peut se faire en une fois. Ça dépend du client, de sa volonté. Parce que l'hypnose, c'est très efficace, mais il y a quand même une volonté au départ. La volonté, elle est même dans la prise de rendez-vous.
Oui.
Si une personne appelle pour dire « je voudrais avoir des renseignements parce que je voudrais que mon mari arrête de fumer », non.
Ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Dites à votre mari de m'appeler, mais ça ne marchera pas. Puisqu'on travaille avec l'inconscient de la personne, ça ne marchera pas.
Et que je comprenne, en restant sur le cas d'un arrêt du tabac, par exemple, l'hypnose va te permettre d'arriver à quoi? À la cause, c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on cherche?
On va plus chercher à dégoûter la personne. C'est-à-dire que pendant l'anamnèse, moi, je travaille de cette façon-là. Je fais toujours un tableau des positifs et des négatifs. Donc, très vite, on se rend compte que le négatif, il y a une grande liste. Très, très vite. Et on va chercher à dégoûter la personne, mais surtout à lui faire comprendre l'intérêt qu'il a à ne plus fumer. L'intérêt ou les intérêts. C'est-à-dire que ce qui était valable pendant un temps, aujourd'hui, puisqu'il est là présent devant moi à chercher mon aide, c'est que cette attitude est obsolète. Donc c'est ça, c'est chercher et chercher un autre comportement.
On va sûrement revenir sur l'hypnose après, mais j'aimerais comprendre comment fonctionnent les énergies dont tu parlais tout à l'heure. Alors, en quoi ça consiste, une séance d'énergie?
Alors, les énergies, en fait, je les ai découvertes un jour où je faisais une séance d'hypnose à un monsieur qui avait des douleurs physiques validées. Il avait une maladie et donc il avait des grosses douleurs. Et je me suis surprise pendant la séance d'hypnose à physiquement poser ma main au-dessus de son genou. Chose que je n'ai pas besoin de faire en hypnose. Je me suis surprise à faire ça. Et à la fin de la séance, ce monsieur me dit « Oh, j'ai plus mal. » Moi, j'étais contente. Et puis, je me dis « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de poser ma main ?» Bon. Et puis, un petit peu après, j'ai reçu une personne de ma famille, une nièce, et je lui dis « Écoute, si tu es OK, j'aimerais tenter quelque chose avec toi. » Voilà. J'ai dit « Mais je sais pas où je vais. » Je te promets absolument rien, j'ai juste moi besoin d'avoir des réponses à ce que je ressens, quelque chose qui semble se profiler, et je la remercie parce qu'elle m'a fait confiance. Et voilà, j'ai commencé à voir des choses, à avoir comme des flashs, des choses, et je lui parlais de ce que je voyais, et donc elle me disait oui, ça me parle, ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça, et bon. Et puis après, j'ai reçu une autre personne de ma famille qui avait une tendinite. Et là, on a travaillé plusieurs fois sur cette tendinite. Mais je la voyais se tortiller sur la table. Et je voyais des choses sortir. Et elle est rentrée chez elle. Elle m'a fait un retour en me disant « Oh là là, j'ai encore plus mal qu'avant. » Et puis, deux jours après, elle me dit « J'ai plus mal. »
Donc, c'est quelque chose qui t'est...
Tomber dessus, comme ça, ouais.
Et que
ouais.
Tu as découvert, j'entends, presque par hasard. Par quelque chose qui te dépasse.
Oui, d'accord. Complètement.
Comment tu le décrirais ? Toi, tu es un vecteur, c'est ça ? Tu ressens quelque chose face à la personne ?
Alors, un vecteur, j'avais jamais pensé à ce mot, mais on peut dire vecteur. Le mot, c'est canal.
Ouais.
Je canalise, en fait. D'accord. Je canalise des énergies et qui, donc, sont du domaine de flash, donc des visions. Je vois certaines choses. Je les ressens. Une personne, par exemple, qui a des vertiges parce qu'elle a des acouphènes, ouais. je vais avoir les mêmes vertiges. Et des personnes qui vont dire « Non, tout va bien. » Et puis, quand on fait le tour de la personne et qu'effectivement, je commence à tanguer, ouais, ça va très bien, sauf que j'ai des acouphènes. Mmh. Et la liste est longue. Mais les gens, en fait, peut-être qu'ils ont tellement... enfouis leur douleur ou qu'elles n'ont pas été entendues, peut-être. Ils vivent avec et puis tout va bien, quoi. Mmh. Donc, des ressentis, des visions, des mots parfois aussi qui s'invitent. Et je retransmets les infos.
Pourquoi toi ?
Pourquoi pas ?
Ok. C'est pas une question que tu te poses, en fait, c'est ça ?
Je me la suis posée.
Ouais.
Je me la suis posée. Je me disais pourquoi moi, dans mon petit coin du Perche, pourquoi ça me tombe dessus, peut-être des a priori, se dire il faut être quelqu'un de... Et non, c'est au contraire, rester, faire ce travail, mais rester vraiment dans l'humilité et ouais, dans une certaine simplicité et faire ce qu'on a à faire quand on a besoin de le faire, quand ça s'impose, quand ça se présente.
Est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui avaient ce don ? On peut parler de don ?
S'il y en a, ils ne les ont jamais exploités.
C'était pas quelque chose d'un milieu dans lequel tu as grandi,
non.
Ou je ne sais pas, une grand-mère, une tante,
non.
Pratiquer les énergies, quoi.
Du tout.
C'est d'autant plus stupéfiant, tu trouves ?
Oui. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être eu un petit peu de mal au départ, quand même, à comprendre ce qui arrivait et à l'admettre. Admettre ce qui arrivait et dire « Ah oui, d'accord, bon ben, ok, j'adhère, j'accepte. »
Comment t'es-tu mise à l'hypnose ?
L'hypnose, j'en ai eu besoin à une époque de ma vie,
d'accord.
En thérapie. Dès les 2-3 premières séances, ça m'a estomaqué, ça m'a franchement, j'ai été estomaquée. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. J'ai commencé à acheter un livre, plus un livre, plus un livre. Et je me suis dit, mince, quand même, c'est pas mal ce truc. Et j'ai donc décidé de me former.
Donc, tu pratiques l'hypnose depuis
4 ans.
4 ans. Mmh. Et en 4 ans, enfin, sur ces 4 ans, sur cette période, est-ce que tu as le souvenir là d'une ou de plusieurs expériences avec tes clients au cours desquelles ou à l'issue desquelles tu te serais dit « Oh là là, c'est pour ça que j'ai changé de vie et que j'ai construit ce chalet et que je reçois des gens avec ça ?»
Ah oui, il y a quelques souvenirs, il y a quelques souvenirs dans les tout débuts, oui, qui ont été marquants. Et effectivement, me dire, je pense, je ne sais pas, il devait y avoir un micro ces jours-là, parce que c'est vraiment ce terme-là, c'est se dire « Waouh !» C'est pour ça que je fais ça. Je sais pourquoi je le fais.
Ouais.
Quand tu as un retour, mais qui dépasse même... je vais pas dire qu'il dépasse mes espérances, parce que moi, j'ai rien à espérer. C'est la personne qui est la seule à soigner. Mais quand la personne te fait un retour, et quel retour, tu te dis, je sais pourquoi. Je sais que je suis à ma place.
Tu te souviens de ces retours, de l'un de ces retours?
Ouais. Un monsieur qui vient un peu timide, un peu beaucoup même, un peu perdu dans son corps, un peu paumé, et qui voulait retrouver confiance en lui. Et donc je pratique l'anamnèse et je lui demande depuis quand il considère qu'il n'a pas confiance en lui. Et il me dit « Oh, c'est depuis tout petit ». Donc je creuse, je lui demande des renseignements sur ses parents, un père qui le battait comme plâtre, une mère qui était passive face à tout ça, elle regardait, mais elle était passive face à tout ça, et ce monsieur avait donc perdu ses deux parents. Et je lui dis, écoutez, avant de faire quoi que ce soit d'autre sur la confiance en vous, moi je pense que ce qui serait bien, c'est de faire un deuil sur votre papa. Il a disparu, je pense que vous devriez faire un deuil sur lui, sur tout ce qui... Voilà. On fait un travail de deuil, et la séance, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être long, et c'est à ce monsieur que je pensais. Parce que ce monsieur, il est revenu plusieurs fois, en fait, dans la séance. C'était tellement lourd, qu'à plusieurs reprises, il a rouvert les yeux et qu'il me disait « je peux pas », et il pleurait, il dit « je ne peux pas ». Je lui ai dit, il faut y retourner. J'ai dit, là, on a commencé le travail, il faut aller jusqu'au bout. Je le faisais repartir. Et il revenait. Et le pire, c'est qu'il me disait, je sentais qu'en fait, même disparu, son père avait encore une emprise sur lui, au point qu'il me disait, non, je ne peux pas couper les chaînes avec lui. Je ne peux pas couper les chaînes avec lui. C'est comme s'il me disait, il va me massacrer, quoi. Il va m'achever. Je l'ai aidé. On est reparti. Je l'ai aidé dans le travail. J'ai vraiment été active dans le travail. Il aurait pu le faire tout seul, mais là, c'était vraiment très, très compliqué. Et puis, on a fini. On a fini le travail. Il était défait. Et je lui donne rendez-vous trois semaines après pour continuer. Il revient me voir après. Je lui dis, ça va ? Oui ? J'ai dit, alors quoi de neuf depuis la dernière fois? Il me dit, pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose de changé. Ah si, à part que ma femme, elle me dit que je fais plus de cauchemars. J'ai dit, mais les cauchemars, c'était à quelle fréquence? Quasiment toutes les nuits. Depuis combien de temps? Depuis, je crois que ça devait faire... entre 10 et 20 ans, hein, depuis que son père était parti. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le schéma d'un cauchemar? De toute façon, il y a toujours quelqu'un dans mon cauchemar qui me poursuit, qui me court après, qui veut me tuer. Et je lui dis, vous les faites plus, ces cauchemars? Il me dit, non, mais c'est ma femme qui me le dit, parce que avant, quand je faisais mes cauchemars, je bougeais dans le lit, et donc ça réveillait ma femme. Et là, elle m'a dit que je la réveillais plus.
Voilà. Pas mal.
Pas mal.
En une séance, aussi éprouvante soit-elle.
Oui, ouais. Oui, oui.
J'aimerais bien qu'on parle de ce territoire que tu connais bien, je crois. Tu es née dans le Perche.
Oui, oui.
Tu as grandi ici.
Ah oui.
Tu as, je crois, toujours vécu ici.
J'ai toujours vécu ici. Ouais. Je suis née à Vaupilon. Enfin, je suis née à Vaupilon. Mes parents habitaient Vaupilon.
Ouais.
Et tu vois, j'ai bouclé ma boucle. Okay. Je suis revenue à Vaupilon. Génial.
C'était comment de grandir à Vaupilon?
Alors, je suis restée 3 ans et demi à Vaupilon. Après, on arrive à Fontaine-Simon. Mmh. Mais c'était... Quand on était petit, surtout ma sœur et moi, parce que les frangins étaient plus grands, et ma sœur encore plus, mais ma moyenne sœur et moi, notre mère voulait nous envoyer des fois en colonie de vacances. Elle pensait qu'on allait s'ennuyer l'été, mais à chaque fois, on a esquivé le truc. Pas besoin, on a tout, là. On avait tout, on avait les arbres au fond du terrain, puis en plus on avait un immense terrain, on avait d'anciennes cages à lapins, on avait tout, puis alors on avait l'imagination en plus. Et ça c'est magique ça, quand t'as un ciel comme ça ouvert et puis ton imagination pour brosser le tableau, c'est magique.
Qu'est-ce que tu préfères ici?
Dans le Perche?
Ouais.
Le vent.
Ah.
Ouais, je suis une fille du vent. J'adore le vent.
Il y en a beaucoup.
Beaucoup disent qu'il y a beaucoup de vent ici dans le Perche. Mmh. Mais moi, j'adore. Mmh. Puis je trouve que c'est porteur de messages. Ça nettoie. Ça balaye les nuages. C'est le bruit dans les arbres. C'est...
Quand tu penses au Perche, quelle image te vient? C'est quoi l'image emblématique?
Du Perche?
Ouais.
Ah, c'est les collines. D'accord. C'est les collines avec les prairies et les arbres au loin. C'est un camaïeu de verre magnifique. Mmh. C'est ça, c'est avec le vent qui vient balayer tout ça. Quand tu as le vent qui vient balayer un champ de blé, déjà remarqué? Il le prend comme ça, rebrousse-poil. D'un côté, tu as une espèce de doré. Puis quand il le reprend dans l'autre sens, c'est pas la même couleur.
C'est une caresse.
C'est une caresse.
Est-ce qu'il y a un son caractéristique ou un bruit caractéristique du Perche pour toi?
Ah ben, ça va être des sons, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. Et tous. Tous. De la chouette au rouge-gorge. Enfin, tous. Hein. Les hirondelles. Le coucou.
Ouais.
Le coucou au mois d'avril. Et puis là, en ce moment, c'est vrai qu'on a une chouette, nous, qui est là. Une diurne, elle est là. C'est magnifique.
Une odeur?
Le foin. Bah oui. Bah oui, ça rappelle tellement l'enfance. Mm. Ça rappelle tellement l'enfance quand on allait aux fêtes foraines, qu'à l'entrée, ils mettaient toujours des ballots pour faire des délimitations. Puis c'était l'époque, de toute façon, juillet, août, c'était ouais. L'époque des foins. Donc forcément, ouais, je crois que c'est le foin, l'herbe coupée en général, le foin. Avec une envie irrépressible de se couler dedans.
Je continue. Un goût qui te rappelle ici?
Alors, est-ce que je vais être chauvine percheronne jusqu'au bout, au point de dire la pomme?
Trop tard, ça y est, tu l'as
dit. Je l'ai dit. En plus, ouais, j'ai un pommier juste devant moi. Mm. Ouais, je pense que oui, okay. On peut dire la pomme. De toute façon, on est.
Ça marche.
Ça marche.
Plus dur, en tout cas, je crois, plus dur, un toucher particulier de cette région. Quelque chose qui te rappelle ici, quoi.
Ah, bah, je vais rester nature, je vais dire l'écorce des arbres. Ça vit. Mm-hmm. Sa vie, il y a la sève en dessous, tu peux la sentir même d'ailleurs. Je la sentis, ouais, c'est l'odeur de sève, c'est l'écorce, c'est comme une peau, c'est magique.
Est-ce que tu as des endroits que tu aimes bien aller voir, des endroits que tu aimes recommander, que ce soit des lieux de nature ou des endroits marchands hein, d'ailleurs?
La voie verte ouais. Est sympa. On ne l'a pas toute faite, évidemment, mais la voie verte, j'aime bien, parce que c'est plat. Enfin, oui, c'est relativement plat, c'est relativement bien préparé. Et il y a des jolis coins, je trouve, sur les voies vertes, quand même.
Qu'est-ce qu'est-ce que je peux te souhaiter avec tout ça?
Eh bien, de continuer sur ma voie, parce que je sais que je suis sur ma voie, je l'ai enfin compris, admis, accepté, voulu, choisi, tout ce que tu veux.
Construit.
Non, que ça continue pour que je puisse aider au mieux les personnes qui en ont besoin, pour mon épanouissement personnel, pour mon évolution personnelle. Puis voilà, qu'il y ait un échange entre les personnes qui sont en... Je ne sais pas si on peut dire en détresse. Quoique certaines personnes sont en détresse, je pense. Donc des personnes qui en ont besoin, en tout cas. Je voulais juste quand même mettre l'accent sur le fait que ce soit les énergies ou que ce soit l'hypnose, je suis thérapeute, mais je ne suis pas médecin. Donc je ne me substitue aucunement à un médecin. Donc il faut évidemment aller voir un médecin et ne pas venir me voir en me disant « j'ai un cancer, guérissez-moi ». Absolument pas. Je ne suis pas une magicienne. Je ne suis pas une magicienne et je pense qu'au contraire, la médecine traditionnelle et les thérapies alternatives sont complémentaires.
C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que propose Noël, suivez-la sur Facebook ou Instagram ou contactez-la au 06 40 78 61 53. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.